Et pour cette nouvelle émission Territoire en mouvement, nous allons parler archéologie, et une archéologie locale bien sûr, puisqu'on va parler des redécouvertes archéologiques du cloître de l'ancienne abbaye d'Anian, avec trois invités autour de ce plateau. Monsieur Philippe Salasque, maire d'Anian, bonjour.
Bonjour.
Laurent Schneider, donc archéologue et directeur de recherche au CNRS.
Bonjour. Bonjour.
Et Marie Christiani, chargée de patrimoine.
Bonjour.
Tout à l'heure, vous allez donner une conférence de presse autour de l'abbaye d'Anian et plus spécifiquement d'objets, de collections, de tables d'hôtel, enfin d'éléments archéologiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et vous présenter un peu plus longuement ?
Alors, moi, je m'appelle donc Laurent Schneider, je suis directeur de recherche au CNRS. Je suis archéologue et spécialiste du Moyen-Âge. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est lié à un don qui a été fait par un habitant d'Anian qui possédait en fait une pierre qu'on a identifiée comme étant une table d'hôtel, donc possible table d'hôtel de l'ancienne abbaye d'Anian, peut-être de l'époque carolingienne. Et ce dont on va parler surtout, c'est du fait que l'abbaye d'Anian ancienne, donc fondée à l'époque de Charlemagne, a été détruite à l'époque moderne par les guerres de religion, et que ces cloîtres et ces objets ont disparu depuis à peu près 450 ans. Et le fait, ont été dispersés dans des maisons, chez des particuliers, dans les sols, et progressivement on retrouve ces pierres et qui nous donnent un lointain éclat de ce que pouvait être le cloître d'Anian.
Des pierres qui ont des fois beaucoup voyagé, notamment à New York. Enfin, il y a eu tout un parcours, en tout cas, pour retrouver des fois ces parties d'éléments de ce cloître.
Oui, c'est exactement ça. La difficulté qu'on avait pour Anian, c'est que Anian fonctionne avec une autre grande abbaye dans le secteur, qui est Saint-Guillaume-le-Désert, qu'on connaît mieux, qui est mieux conservée dans son état. Mais la plupart des pierres de Saint-Guillaume-le-Désert, et sans doute d'Anian aussi, ont voyagé, ont été achetées par différents antiquaires, et se retrouvent aujourd'hui à New York, au musée des cloîtres. Et depuis cette époque, on a plutôt tendance, comme on dit, à ne prêter qu'aux riches, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on trouve dans un village une pierre dans des maisons, à Saint-Jean-de-Fosse, à Montpérou, à Anian, à attribuer systématiquement ces pierres à l'abbaye de Gélonne. Et nos travaux récents ont permis de déterminer par les fouilles qu'il y avait un cloître de même splendeur contemporain de celui de Saint-Guillaume à Anian, et qu'en fait il y avait deux abbayes magistrales, et cette fois-ci avec des preuves archéologiques, c'est-à-dire des démonstrations.
Je vois que Marie...
Oui, j'opine du chef, effectivement. Donc, Marie Christiani, je suis responsable du service patrimoine de la communauté de communes Vallée de l'Hérault. À ce titre, j'ai la chance de suivre à la fois les projets sur l'abbaye d'Anian, puisque c'est la propriété de la communauté de communes, mais aussi un petit peu les projets autour de l'abbaye de Saint-Guillaume, le désert, avec la mairie de Saint-Guillaume. Et effectivement, donc, actuellement, il y a une remontée de vestiges qui sont redécouverts chez des particuliers, comme le disait Laurent. Donc il y a deux éléments sculptés qui ont été restitués au musée et donc à la mairie de Saint-Guillaume-le-Désert récemment. Et puis sur Anian, on a eu une première redécouverte en 2022 avec le tailloir sculpté qui a été acquis par la communauté de communes et qui donc a rejoint les collections archéologiques de la CCVH. Et puis là, très récemment, l'année dernière, donc 2024, on a eu cet habitant d'Anian, Monsieur Payard, qui lui aussi s'est fait connaître avec la table d'hôtel. Donc voilà, il y a une habitude, en tout cas dans les villages du territoire, de récupérer des matériaux des anciennes abbayes pour construire des habitations. Et donc, il n'est pas rare d'avoir dans les constructions modernes de ces villages des remplois. Et je pense que M. Salasque peut aller dans ce sens-là, parce qu'Anian présente beaucoup de vestiges en remploi dans les habitations.
Oui, bien évidemment. Toutes ces pierres qui racontent cette histoire millénaire, elles ont été souvent ignorées. Hein. Et aujourd'hui, par la communication, par l'acquisition par la CCVH de l'ancienne abbaye d'Anian, et la communication qui est faite, évidemment qu'il y a beaucoup de personnalités, beaucoup d'administrés qui redécouvrent cette histoire dans les jardins, dans les maisons. Et je suis persuadé, mais on en est sûr, il y a des éléments exceptionnels encore ignorés. Et il faut faire appel à leur conscience pour restituer ces éléments-là, parce que c'est la reconstruction d'une histoire.
Oui, tout à fait. On peut voir ça, puisqu'on est sur un média, un peu. Ce sont des médias du passé, hein, c'est des pierres alors qui sont décontextualisées parce qu'elles ne sont plus dans l'état architectural de présentation qu'elles ont connu au cours du Moyen-Âge, mais ça nous montre c'était l'éclat de la beauté de ce cloître et ça nous permet d'imaginer, de voyager dans le temps avec aujourd'hui une table d'hôtel, mais dans les autres pierres qui ont pu être trouvées, vous avez des fleurons magnifiques, des fleurs, des végétaux, et encore une fois très proche de celle de Saint-Guilain. Moi je voudrais insister sur ce point parce qu'on a souvent considéré les historiens que ces deux abbayes étaient en concurrence. Alors il y avait une forme de concurrence, mais plus de compétition, mais c'était une compétition dans la splendeur qui se faisait. Et donc là on a deux édifices magistraux, dans un grand site de France d'ailleurs, qui racontent le destin d'architecture et d'œuvre du Moyen-Âge à travers des destins en fait particuliers pour l'une et pour l'autre.
Et comment vous en êtes venu ? Quelle est votre histoire vis-à-vis de cette abbaye d'Aniane, Laurent ? Comment vous en êtes venu à faire des recherches ? Parce que ça fait des années et des années que vous travaillez autour de ce vestige. Enfin,
alors effectivement, j'ai commencé il y a très longtemps par faire une thèse en fait sur les possessions de l'abbaye d'Aniane sur ces terres à partir de textes essentiellement. Et je m'étais intéressé surtout au texte, à son cartulaire, parce que donc j'ai soutenu ma thèse en 1996 et jusqu'à à peu près à cette date, l'abbaye en fait était l'ancienne abbaye qui a été reconstruite et eh bien était occupée par un centre d'éducation surveillé et qu'on ne pouvait pas accéder à l'abbaye, et c'est uniquement donc moi mon départ c'est ça, donc c'est les années 90, des prospections autour du village dans la zone rurale, des contacts avec les habitants, des recherches dans les textes, et à partir de 2011 l'État propriétaire des lieux, ministère de l'Intérieur, a vendu, s'est séparé en fait de son bien, de l'établissement, et c'est donc la communauté de communes qui a racheté en fait l'établissement, et la communauté de communes a sollicité le CNRS et ses spécialistes pour engager des fouilles avant tout travaux de réhabilitation pour essayer de décortiquer ce passé lointain qui était inconnu des gens qui ne connaissaient en fait le lieu que comme ancienne prison, bagne pour enfants et puis centre d'éducation spécialisé par la suite.
Je confirme les propos de Laurent. Nous, les anciens Anianais, on appelait ça la colonie. Hein. On l'a connu, c'était un espace fermé qui était impénétrable, hein, juste réservé à ceux qui étaient incarcérés. Et puis l'éducation hein, qu'il y avait, hein, tous les personnes de l'éducation qui sont des surveillants. Et aujourd'hui, c'est notre Aniane qu'on redécouvre dans son passé. On ne peut pas imaginer la portée, tu l'as dit Laurent, mais la portée politique de l'abbaye d'Aniane. C'est elle qui a construit ici ces terres du cœur des Raux. Hein.
Oui, bien sûr. Enfin, on n'a pas parlé du personnage qui est notoirement connu nulle part dans le monde, dans le monde, hein, dans le monde universitaire, sur l'ensemble des continents. Lorsqu'on aborde la question du monachisme bénédictin européen, eh bien, ce monachisme européen, construit à l'époque de Charlemagne, est lié au personnage qui a fondé l'abbaye d'Aniane, qui est Saint-Benoît lui-même. Hein, qui a été un grand réformateur, qui a uniformisé les règles des moines, règles bénédictines dans laquelle certaines communautés vivent encore aujourd'hui. Donc Aniane a été en fait un outil en fait d'uniformisation des règles monastiques à l'échelle européenne. Vraiment, le personnage lui-même, encore une fois, aucun étudiant en histoire européen ne peut faire de Moyen-Âge sans évoquer ce nom.
Oui, je me permets d'intervenir pour dire que c'est justement pour cela qu'il y a un fort enjeu aujourd'hui de connaissance du site et de médiation pour redonner à ce lieu tout le rayonnement qu'il a pu avoir dans son histoire ancienne, donc son histoire médiévale, avec un rayonnement à l'époque, on pourrait dire aujourd'hui, européen. Et donc voilà, la CCVH, qui est aujourd'hui propriétaire des bâtiments, a une sorte de devoir de mémoire à accomplir pour réhabiliter le lieu et, j'allais dire, le réouvrir au public, mais non, en fait, l'ouvrir tout court au public, puisque comme disait très justement Monsieur Salasque, le lieu a été fermé pendant toutes les années de l'époque pénitentiaire, on va dire, puis du centre d'éducation surveillée. Et avant cela, eh bien, on parle d'un monastère, donc qui est un lieu par essence fermé au monde extérieur. Donc aujourd'hui, voilà, il y a un enjeu à ouvrir ce site et à le restituer aux habitants d'Aniane et aux habitants plus largement du territoire de la communauté de communes et du cœur des Raux.
Vous avez parfaitement raison, Marie. Cette entité, cette ancienne abbaye d'Aniane, représente un quart de superficie intramuros du village. Ce n'est pas rien. une partie, 25%, aucun habitant ne connaissait cela, à part ceux qui y travaillaient, ou du moins ceux qui étaient incarcérés. C'est inouï. Jamais j'aurais pu imaginer, moi, en tant que maire d'Agnan, que je puisse découvrir cette histoire. Et je te remercie, Laurent, parce que tu as guidé les élus à la communauté de communes, tu as guidé les élus d'Agnan. Tu nous as sensibilisés à cette histoire, à cette grandeur d'Agnan. La page noire, c'est le passé carcéral. Ça, c'est la page noire. La page blanche, c'est ce rayonnement qu'a eu Agnan et sur le département de l'Hérault et de portée européenne. Il ne faut pas tu citer Saint-Benoît. Il est allé mourir en Allemagne, à côté d'Arène, à Aix-la-Chapelle. C'est quelqu'un qui était dans les cercles de Charlemagne, dans ses principaux conseillers politiques.
Oui, bien sûr. Ce qu'il faut comprendre aussi, il y a le lieu, hein, c'est-à-dire le monastère lui-même, mais il faut voir qu'un monastère, ça n'est pas qu'un monument avec une communauté monastique, hein, c'est un établissement qui a aussi des dimensions politiques et des dimensions économiques. Le monastère, pour qu'il puisse vivre, il vit de dons, il vit de terres, de biens, et donc il faut imaginer qu'Agnan, au 9e siècle, on va dire, pour faire simple, autour de 800, Agnan, c'est le centre, en fait, d'un domaine qui comprend des centaines de villages, des dizaines d'hectares, qui comprend des paysans, qui comprend des personnels, et qu'en fait, presque tous les villages du cœur d'Hérault, mais pas seulement du cœur d'Hérault, hein, du Larzac à la Méditerranée jusqu'à Agde, la plupart des villages donc du centre Hérault sont d'une manière ou d'une autre liés à Agnan, et à Saint-Guillain. Hein, et d'ailleurs, Saint-Guillain lui-même, je reviens, n'existerait pas sans Agnan. C'est le poids d'Agnan qui a attiré un autre grand personnage, Guillaume, qui lui était un laïc, et qui, sur la fin de sa vie, s'est fait moine pour sa retraite et ses derniers jours. Donc oui, il y a toute cette dimension politique, économique, religieuse, spirituelle, bien sûr, et c'est ce que l'on essaye de restituer, en fait, aujourd'hui, de montrer. Le deuxième enjeu, peut-être aussi, c'est, au-delà de rassembler des témoignages, c'est l'objectif, hein, qu'on espère tous à terme, et moi je remercie aussi tous les élus qui, on travaille absolument de manière très coordonnée depuis des années, c'est très long, les choses ne se font pas du jour au lendemain, mais l'objectif à terme, c'est, dans le cadre du grand site, d'avoir un centre d'interprétation, ce qu'on appelle une archéothèque, c'est-à-dire de rassembler, non pas dans des hangars, mais dans un lieu prestigieux au sein de l'abbaye, de rassembler l'ensemble des collections des pierres qui nous sont données, qu'on retrouve dans les sols, des céramiques, et de présenter ça au public local, pour lui réapprendre à s'approprier sa propre histoire, mais présenter aussi à tous les gens qui sont intéressés pour découvrir ce territoire et ce sol.
Oui, je pense qu'on peut parler du public que constituent les habitants, mais aussi le public touristique qui, ici sur le territoire, est attiré par la pépite qu'est Saint-Guillaume-le-Désert. L'idée, c'est pas de faire concurrence à Saint-Guillaume, mais de venir raconter l'histoire de notre territoire à travers ces fameuses collections archéologiques qui sont déjà conservées sur le territoire, mais dans un écrin plus adapté, avec des conditions de conservation vraiment adaptées au mobilier archéologique, qui n'est pas le cas absolument aujourd'hui. Et puis, je pense aussi au public touristique, pour lequel un centre d'interprétation à l'abbaye d'Agnan dans le futur pourrait constituer une porte d'entrée sur la découverte du territoire, avec une narration à partir des objets archéologiques et autres éléments d'archives concernant l'abbaye, par exemple. Eh bien, une découverte de l'histoire du territoire qui pourrait ensuite amener les gens, les touristes, à se dire « Ah ben super, là, j'ai entendu parler du Rocher des Vierges. Demain, je fais une rando sur le site. » Voilà, c'est présenté aussi. Et d'ailleurs, le public touristique de la vallée de l'Hérault, on a les statistiques dans le rapport d'activité de l'Office de tourisme intercommunal, est très intéressé par le patrimoine. Il y a une très large partie des touristes étrangers et français qui s'intéressent et qui demandent à visiter du patrimoine sur notre territoire. Donc c'est aussi une force pour l'attractivité de la vallée de l'Hérault.
En fait, c'est une vraie histoire.
Par rapport aux sculptures, aux pierres qui ont été retrouvées, qu'est-ce qu'il y a de sculpté sur ces pierres exactement ?
D'une part, ces pierres jusqu'à présent, donc on en connaissait quelques-unes, mais qui étaient dispersées, c'est-à-dire réemployées. Voilà, pour le dire autrement, l'abbaye, en fait, a été victime pendant les guerres de religion, a été saccagée. hein, puisque les protestants, en fait, dans leur démarche, ont brisé en fait tout ce qui était des représentations de saints, des représentations divines. L'abbaye ensuite a été entièrement reconstruite au XVIIe siècle, puis transformée, comme on l'a vu, en centre pénitentiaire. Mais dans ces 450 ans, les pierres qui ont subsisté ont servi de matériaux de construction. Donc se sont retrouvées dans les maisons, dans des cuves à vin pour faire des pressoirs, pour faire des rebords de fenêtres, des décorations dans les maisons. Mais encore une fois, c'est comme elles étaient non contextualisées. Alors sans être un grand chercheur, on se doute bien que quand il y avait une abbaye à Aniane, des pierres dans les façades d'Aniane pouvaient et avaient de grandes chances de venir d'Aniane. Mais on n'en avait pas la preuve. Et dans les fouilles qu'on a pu réaliser, on a trouvé alors une toute petite section préservée du cloître roman, donc c'est-à-dire quelques dizaines de mètres carrés, avec les niveaux de destruction des guerres de religion dans lesquels se trouvaient en fait des chapiteaux, des œuvres du XIIe siècle, alors qui représentent des personnages des évangiles, hein, des scènes spirituelles. Ça peut être des chapiteaux qu'on dit historiés, mais il y a aussi beaucoup de décors végétaux qui sont des allégories en quelque sorte du paradis, donc avec des rinceaux de fleurs magnifiques, très fines, des feuilles, du lierre, de la vigne, voilà, qui sont représentés. On est surtout, ce qui est spectaculaire, c'est qu'on est à l'apogée de l'art roman. On est là dans les dernières décennies du XIIe siècle, où les artistes, les artisans et les artistes de cette époque ont atteint un niveau de savoir-faire réellement exceptionnel. Et je reviens encore sur le point de comparaison avec Saint-Guillain. Encore une fois, ça n'est pas en termes c'est plutôt en termes de complémentarité, parce qu'il faut imaginer que ces chantiers ont drainé là aussi des artisans, des artistes qui étaient parmi les meilleurs de ce qui existait à l'époque, et que ces deux grands chantiers concomitants en fait ont été aussi des foyers artistiques et des foyers intellectuels de la même manière, hein. Alors il y a la sculpture proprement dite qui ornait ces chapiteaux, mais derrière il faut imaginer les carrières qui ont été mises en place, il faut imaginer les maçons, il faut imaginer les architectes, il faut imaginer aussi les charpentiers, le bois, les cordes pour faire les coffrages de toutes ces constructions. Et en fait c'est tout un monde qui a été animé, hein. Et à ce titre d'ailleurs, c'est une plaisanterie que je fais assez souvent, mais je voudrais la refaire, hein. Le lien entre les deux abbayes, c'est le fameux pont du diable, qu'il faudrait peut-être rebaptiser pont de la Concorde. Si je parle de ça, c'est parce que ce pont, eh bien, ce sont les abbayes qui l'ont financé. Les deux abbayes, Gélonne et Aniane. L'une a financé le maître d'œuvre, l'autre a financé les matériaux. Et ces moines ont tenu à ce que ce pont ne soit pas taxé. Ils ont interdit la construction de chapelles, ils ont interdit la construction de châteaux. Et là, déjà, on est dans les années 1030, et on est quelque part au début de ce qu'on appellerait aujourd'hui du développement durable. Hein, c'est-à-dire que c'est des personnes, des gens qui ont désenclavé la région d'arrière-pays en détournant les trafics en fait, des anciennes routes, en proposant un pont pour traverser ce cœur d'Hérault, hein, de manière très, très symbolique, et dynamiser en fait, toute une région. Et on vit d'ailleurs encore aujourd'hui dans leurs traces.
Et qu'est-ce qui explique autant cette attractivité? Comment ils ont réussi à faire venir les meilleurs artisans et les meilleurs artistes?
J'allais dire leur financement, hein, c'est des établissements qui sont extrêmement riches. Ce sont des établissements qui, autour de Aniane, en fait, à l'époque carolingienne, les chiffres donnés sont peut-être un peu exagérés, mais on évoque, les contemporains de Benoît d'Aniane évoquent 300 moines. 300 moines, il faut les nourrir, il faut des terres, il faut des marchés. Voilà, donc il y a déjà, donc c'est du commerce qui se développe. Les commerçants qui viennent s'installer, ben ça attire aussi des bourgeois, des nobles qui viennent s'établir sur ces marchés pour vendre, pour se procurer des biens. Et puis les moines, eh ben, ils ont leur activité aussi, c'est une sorte de sécurité sociale aussi, hein. Il y a des impôts qui sont payés, la dîme. Cette dîme, elle permet de compenser, d'ouvrir les greniers du monastère quand il y a des périodes de famine et de disette, parce qu'il y en a. Donc ils offrent de la sécurité. Ils ont une police, hein, aussi, les moines. Il y a une prison aussi à Aniane, dès l'époque de Charlemagne. Et vous voyez, donc c'est tout ce dynamisme-là, ces investissements qui ont été faits, qui ont contribué, en fait, à l'origine presque du développement de la plupart des villages du centre Hérault, hein, de la plupart du village. Presque toutes les églises. Par exemple, on est ici à Gignac aujourd'hui. Gignac, c'est un château qui est tenu par des familles de nobles, laïcs. Mais les Gignacs se font enterrer à Aniane. dans le cimetière des moines. Pour se faire enterrer, ils ont fait des dons à Agnan de terre, à Gignac ou ailleurs. Et ça a été jusqu'à donner l'église de Gignac. Hein, l'ancienne église de Gignac, qui était en bas, a été donnée à Agnan. Ça veut dire que les moines d'Agnan aussi desservaient tout un réseau d'églises paroissiales en dehors de leur monastère. Hein, et donc on avait comme ça des réseaux... voilà, de mémoire, que ce soit Gélone ou que ça soit Saint-Guilhem ou Agnan, Saint-Félix de Lodès, Seyras, Le Pouget, voilà, pour en dire quelques-uns là, qui me viennent en tête, Montpérou, toutes les églises locales étaient gérées par les moines. Hein, donc ça veut dire que les personnages au Moyen-Âge vivaient, naissaient et mouraient dans la compagnie des moines, même si le lieu était fermé en lui-même.
Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans vos recherches par rapport à cette abbaye, par rapport à des choses que peut-être des jugements que vous aviez ou des choses qui vous ont surpris ou vous attendiez pas en effet à de telles découvertes?
Alors c'est moins des surprises d'archéologue, mais c'est le lieu, parce que moi j'étais particulièrement ému avec Philippe et d'autres, mais les archéologues, quand on est rentré, le site a été acheté en 2010 et on a mis en place l'opération archéologique dès 2011, en octobre 2011. Et en fait, les archéologues, c'est-à-dire les responsables du CNRS, avec mes collègues, on travaille avec des étudiants. Et donc, rentrer dans ce lieu avec une vingtaine d'étudiants de 18 à 20 ans, dans un lieu qui était fermé, où les portes étaient cassées, qui était une ancienne prison, une époque noire, c'était particulièrement émouvant hein, d'être confronté tous les jours à ces dizaines de fenêtres, de portes. Mais moi, mon sentiment, c'était d'avoir redécouvert ça avec une nouvelle jeunesse, avec de nouveaux étudiants, dans un cadre totalement pacifique de chercheurs scientifiques. C'était absolument passionnant, mais très, très émouvant. Hein. Je n'ai jamais vu des étudiants aussi calmes quand ils sont rentrés dans les lieux, tellement ils étaient saisis en fait, par ce passé, l'âge d'or qu'on cherchait, puis on a trouvé quelques belles pierres, mais par cet âge noir, en fait, sombre des temps plus récents.
Pareil aussi pour vous, Philippe, justement, dans ces découvertes, dans ces discussions, ces échanges avec Laurent, on sent qu'il y a eu beaucoup d'échanges, de discussions pour faire valoir aussi ces découvertes.
Personnellement, moi, j'étais très impressionné parce que c'est un univers que j'ignorais, hein, que je découvrais. C'est d'abord une rencontre humaine avec Laurent et toutes ces équipes de jeunes qui se souviennent de ces étés torrides. À faire des trous partout, à chercher, à chaque fois m'appeler, chaque fois qu'il y avait un objet qui était un peu exceptionnel. Je crois que ça m'a marqué, ça me marquera à vie. Quoi. On ne peut pas se projeter demain si on ne comprend pas hier. C'est clair pour moi. On est dépositaire de... On a trop longtemps ignoré ce passé majestueux. Pourquoi, je ne sais pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, les habitants d'Agnan, qu'ils soient autochtones ou néo, ils s'approprient cette histoire. Le pays cœur des Roux aussi, hein, les habitants des autres villages aussi, quand ils arrivent devant aujourd'hui cette abbaye, ils sont scotchés. Par sa splendeur, même si sa restauration reste encore... il faudra des décennies pour y arriver, tellement le projet est ambitieux. Mais ils sont surpris, c'est exceptionnel. Jamais un habitant d'Agnan n'aurait imaginé ce que c'était... cette entité et les pierres en dessous, la terre en dessous nous apprend plus que ce qu'on voit dessus. Hein. Moi, ça me fait des frissons chaque fois. Et me dire, nous devons être les élus, ceux d'aujourd'hui, ceux de demain, nous devons être garants de la restauration de ce patrimoine. C'est pas possible autrement.
Oui, et puis j'imagine que pour la population, il y a peut-être un enjeu de notre part à nous à valoriser ce passé rayonnant et important de l'abbaye, ne pas s'arrêter au passé récent et cette époque sombre qui parfois peut un peu plomber. Voilà, faut pas s'arrêter à ce passé pénitentiaire qu'on doit malgré tout valoriser parce qu'on a un devoir de mémoire aussi vis-à-vis de tous les jeunes qui sont passés dans ces murs depuis la fin du 19e siècle. Mais voilà, ressusciter un peu ce passé médiéval rayonnant, c'est peut-être aussi agréable, j'imagine, pour la population locale de s'identifier à cette histoire.
Marie, c'est la population, c'est la population d'une communauté de communes aussi, hein, à minima.
Aussi, bien sûr.
Parce que moi, je tiens à féliciter et dire un immense merci à tous les élus du territoire, parce qu'il fallait faire l'acquisition d'un bien qui était en piteux état, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. se donner les ambitions qui prennent, je vous l'ai dit, des décennies, parce que tellement, tellement de superficie. Mais cette restauration, ce n'est pas juste une restauration contemplative, elle va être aussi source de levier économique. Ce qui va se passer de manière culturelle, tout, avec des porteurs de projets, on verra. C'est là où il va falloir
travaille.
Que... je sais, c'est là où les élus... Il faudra savoir dire non au plus facile pour aller sur l'excellence, avoir attendu autant de temps pour pouvoir attendre quelques années de plus. Ne pas faire n'importe quoi, mais c'est la volonté des élus. Je sais que le président Soto en est conscient. Aujourd'hui, on en est à la restauration de la chapelle. C'est véritablement la nouvelle première pierre qu'on pose. Il y en aura d'autres, mais avec leur temporalité et la qualité des projets qui viendront. Et je vous dis, ce sera aussi un levier économique. Je ne sais pas si Laurent partage.
Ah oui, totalement. Il faut que ça soit ouvert, polyvalent, que ça redevienne un lieu de vie, dans le respect, bien évidemment, de l'histoire du lieu et du territoire. Alors évidemment, aujourd'hui, on est sur les journées européennes de l'archéologie, donc je vais plaider pour l'archéologie, mais ce n'est pas un secret. Philippe et d'autres le savent. J'ai été élu local aussi. J'ai fait quelques mandats, donc j'ai une idée aussi de la demande des populations, que ce soit en termes de santé, de transport ou d'autres choses. Donc les priorités sont très nombreuses aujourd'hui, donc les choses ne se font pas à pas, mais je crois dans un bon esprit, dans un objectif qu'on partage, sur un temps qu'on partage moins, parce que c'est celui de nos existences, mais moi donc je plaide aujourd'hui les journées de l'archéologie, c'est pour un dossier qui est celui qu'on appelle de l'archéothèque, hein, archéothèque qui montre aussi la bonne entente, qui est actuellement hébergé. Donc l'archéothèque, c'est un dépôt archéologique qui existe depuis le début des années 70, qui a déménagé 5 fois, qui est enrichi par une association, Le Grec, depuis 50 ans. Cette archéothèque, elle était à Clermont-l'Hérault, elle a été déménagée à Nébian dans la cave coopérative, elle a été redéménagée au domaine de la Tour, où il devait y avoir un grand centre départemental, puis le domaine de la Tour à Nébian a été vendu. Dans l'attente d'un projet à Niane, elle est accueillie actuellement dans les locaux des services techniques de la mairie de Vendémian, ce qui montre là encore enfin le lien entre le projet et les élus. Hein, donc moi, mon souhait, c'est que cette archéothèque, alors qu'est-ce que c'est ? C'est des casiers dans lesquels se trouvent des pierres ou des objets qui, pour certains, mériteraient d'aller dans des musées, qui, pour d'autres, sont juste des preuves qu'il faut conserver, qui sont des médias du passé, mais qui concernent absolument tout le territoire, que ça s'agisse du Clermontais, de la vallée de l'Hérault, en gros de tout le bassin médian de l'Hérault. Et ces collections, en fait, archéologiques, elles permettent de s'approprier l'histoire de ce territoire, de mieux le comprendre sur place, sans être obligé de se déplacer dans des grands musées régionaux ou nationaux, hein, sur place, qui mélangent des collections. Voilà. C'est aussi des réserves. Je finirai peut-être là-dessus, mais aujourd'hui, par exemple, à l'archéothèque, on a des faunes, des os d'animaux qui ont été trouvés au rocher des Deux Vierges sur le château dans les années 80. Aujourd'hui, ces os qu'on conserve, eh bien, on fait des études ADN dessus, des études génétiques, des spécialistes, parce qu'on les a conservés. La science avance, la recherche avance. Et certains chercheurs tentent d'essayer de déterminer, par exemple, chez les moutons, des espèces plus rustiques, qui était adapté au territoire vers l'an 1000 et qu'on pourrait peut-être retrouver par ces signes-là. Voilà, donc il y a aussi ces réserves archéologiques. C'est aussi soit parce qu'on n'a pas les financements, soit parce que la recherche avance et qu'on ne sait pas aujourd'hui de conserver des témoignages que les suivants, que les générations futures utiliseront pour compléter ce que nous-mêmes, nous n'aurions pas bien compris ou nos propres erreurs.
Quels sont les projets justement pour cette abbaye dans les futures années, les futurs mois, cet été, et est-ce qu'il y aura aussi d'autres avancées au niveau des recherches ?
Alors en ce qui concerne les projets de l'été, on va faire chronologiquement, donc on a toute une programmation culturelle et patrimoniale qui est prévue comme chaque année pendant les vacances scolaires, qu'on va ouvrir un peu avant les vacances avec un concert le 22 juin à l'abbatiale, donc l'ancienne abbatiale Saint-Sauveur, donc l'église d'Agnane, un concert d'orgue avec un chœur de chanteurs baroque, donc un concert qui sera payant et dont tous les bénéfices seront reversés à la Fondation du Patrimoine pour la réhabilitation de la chapelle de l'ancien pénitencier sur le site donc, qui est actuellement en cours. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Cet été, eh bien, restez connectés à l'agenda de la CCVH parce qu'il y aura des visites guidées bien évidemment et des ateliers divers et variés pour les petits et les grands sur le site de l'abbaye. Et on on clôturera l'été avec en septembre les journées du patrimoine. Donc ça c'est pour la programmation culturelle. Ensuite, en ce qui concerne les projets d'investissement et de travaux sur l'abbaye, eh bien actuellement donc cette ancienne chapelle pénitentiaire qui est bien connue des habitants de la vallée de l'Hérault puisqu'elle était déjà utilisée ces dernières années comme salle de spectacle, on y tenait on y tenait le salon des vins d'Agnan, il y a eu aussi beaucoup d'éditions du festival Agnan en scène qui ont pris place dans ce lieu. Donc là actuellement la chapelle est fermée, elle est en travaux et voilà, les travaux avancent bien et on espère donc en 2026 une réouverture au public. Et puis pour les années à venir, l'archéothèque, donc là nous sommes à l'état d'une étude de programmation qui est en cours sur ce projet pour accueillir les collections dont parlait Laurent et qui sont aujourd'hui conservées à Vendémian. Et puis, dans le futur, la mise en sécurité aussi du cloître qui nous permettra sans doute d'accueillir le public. Mais là, on est sur des échelons un petit peu plus lointains. Et puis, à terme, un jour, la réhabilitation du site.
Il y a surtout aussi une étude qui est portée par Territoire 34.
Absolument.
Aujourd'hui, puisque cette abbaye, forcément, elle est au cœur du village. Donc, il y a des problèmes d'accessibilité, de mobilité, l'interaction entre cette abbaye et le village historique. Donc, il y a une étude qui est portée par Territoire 34. Elle est bien en cours, bien avancée. Et à partir de là, on pourra mieux se positionner pour les projets que nous pouvons accueillir. Il est insensé de se projeter tant qu'on ne règle pas ces problèmes d'accès et de mobilité. Y a-t-il des bâtiments à détruire? Je n'en sais fichtre rien. En tout cas, je fais confiance aux bâtiments de France pour nous dire, est-ce que l'ancienne infirmerie, qui pour moi, je n'engage que moi, n'a pas de valeur patrimoniale avérée, faut-il la détruire pour aérer l'espace? Je ne sais point. C'est dans les prochains mois, on aura les réponses à ces questions. Elles permettront de déclencher la réflexion sur les autres pistes.
Tout à fait. Le mot de la fin.
Oui, que tous les publics profitent bien de ces journées européennes de l'archéologie. Hein. C'est un événement qui est très particulier, d'une science qui s'inscrit dans l'histoire des sols, en fait, hein, et qui est complètement liée au territoire, à la vie des territoires culturels et archéologiques. Donc.
Où est-ce qu'on peut, au final, retrouver vos études, les mémoires? Où est-ce qu'on peut retrouver aussi toutes ces informations pour pouvoir aussi en savoir plus sur l'abbaye d'Agnan?
Pour le cas de la communauté de communes, on a sur notre site internet plusieurs pages qui sont dédiées à l'abbaye d'Agnan, aux projets qui sont en cours, à la programmation culturelle qui s'y déroule et puis à son histoire de manière assez accessible. Et puis je laisse répondre Laurent sur la partie plus scientifique.
Alors pour le moment, on n'a pas réalisé d'ouvrage en fait grand public, mais en revanche, il y a des publications scientifiques qui existent et ça me donne aussi l'occasion d'expliquer comment travaillent les chercheurs. Moi, je suis chercheur CNRS, donc fonctionnaire, et en tant que chercheur public, toutes nos publications sont sur des sites en ligne et gratuites, donc il suffit de taper des noms, Schneider, Agnan, ce que vous voulez, cloître, et vous accéderez immédiatement à toute la production scientifique qui a été réalisée gratuitement depuis les postes familiaux ou personnels.
Eh bien, un grand merci à tous, Laurent Schneider, Monsieur Philippe Salasque et bien sûr Marie Christiani. Et on a hâte de redécouvrir ou de redécouvrir ce monument très important qui est encore plein de secrets à nous faire découvrir alors.
À la suite de ce plateau radio réalisé dans les locaux de la communauté de communes Vallée de l'Hérault, nous avons continué à échanger avec Laurent Schneider en amont de sa conférence sur la redécouverte archéologique du cloître de l'ancienne abbaye d'Agnan avec différents journalistes en présence de monsieur Pierre Pellard, amateur d'archéologie et généreux donateur des deux fragments de calcaire sculptés retrouvés dans sa propriété qu'il pressentait être médiévaux. L'identification de ces pierres a finalement été validée grâce à l'expertise des services de l'État, DRAC Conservation Régionale des Monuments Historiques, ainsi que du service patrimoine du département de l'Hérault. Si vous aussi pensez avoir identifié des blocs sculptés dans votre habitation, phénomène courant dans la vallée, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes de la communauté de communes Vallée de l'Hérault qui procédera à un inventaire. La conservation et la valorisation de ce vestige patrimonial sont précieux. Mais en fait, Laurent, La pierre léguée par M. Pellard et exposée pour votre conférence, elle était de quelle taille à l'origine ?
Elle devait à l'origine sans doute en faire le double, donc peut-être autour d'un mètre 20 sur 60 cm, voilà, quand la pierre était complète, donc on en a, on va dire, un tiers à peu près hein, de l'ouvrage. Dans la partie supérieure, il y a donc un petit rebord et qui laisse place ensuite à un plat, qui est le plat proprement dit de la table, qu'on appelle donc table d'hôtel, c'est-à-dire le lieu où se déroule la cérémonie. Et puis sur la tranche, en fait, cette table était sur un pilastre, sur un cip, très certainement sur une estrade. Et donc la tranche de la pierre que le public qui se trouvait dans le monastère pouvait voir, il y a un décor très particulier qui est fait de sortes de cornes d'abondance, de laquelle sortent des liens, des végétaux qui s'enroulent et qui peuvent évoquer presque des yeux, hein, de regard, qu'il y a un jeu de symétrie. Et ce type de décor d'entrelacs, bon, d'un point de vue stylistique, c'est quelque chose qui émerge dans la fin du 8e siècle et qui va être utilisé en fait comme motif iconographique pratiquement jusqu'au 11e siècle. Donc comme on ne l'a pas retrouvé en fouille, on ne peut pas en garantir la datation précise, mais on se situe entre la fin du 8e siècle et la première moitié du 11e siècle, très certainement. Et ce qui est original, c'est le fait que, malgré le fait qu'on ait fait des fouilles de très grande superficie à Anyan, on n'a jamais retrouvé de fragments d'hôtels. Alors des hôtels, des tables, des hôtels à Anyan dans le monastère, hein, les monastères, ce sont des usines à prière. Il y a plusieurs hôtels, il n'y a pas qu'un seul hôtel. Hein. Donc à Anyan, il y avait au moins 7 hôtels. Cet hôtel, puis il y avait des modes hein, qui pouvaient varier, c'est-à-dire des fois on conserve la pierre originelle de la fondation, mais des fois on la modernise, on la remplace par quelque chose de plus beau dans d'autres matériaux. Et donc là, c'est probablement un des 7 hôtels de l'abbaye qui a été retrouvé, soit l'hôtel originel de l'époque de la fondation, soit un hôtel postérieur, donc des 9e, 10e ou 11e siècle. Ce qu'il faut peut-être préciser aussi pour les auditeurs, c'est que la pierre qui est utilisée n'est pas du marbre. On n'est pas dans la tradition des premières tables d'hôtel, comme celle de Saint-Victor à Marseille, ou celle de Minerve, hein, qui sont parmi la stèle de Rusticius à 40 aussi. On est dans un calcaire tendre, local, et qui est probablement issu d'une carrière souterraine qui venait d'Anyan. Là, il y a des prélèvements qui ont été faits, il faudra attendre le développement des analyses pour le confirmer.
Ou de
Puy-Chabon, exactement, oui.
Ouais.
Alors là, la façade d'Anyan qui est du 18e, ouais. C'est un calcaire qui est un peu plus coquillé. Hein, c'est pas tout à fait encore le même celui-là. Là, c'est un calcaire fin, mais c'est un calcaire de qualité parce que c'est un calcaire qui se travaille plus facilement que des calcaires durs ou qu'on appelle des calcaires froids. Voilà. Les deux plus vieilles tables d'hôtel connues dans le sud de la France, peut-être même en France, elles sont en marbre. Il y en a une qui est celle de Minerve, où on sait la dater parce que c'est la pierre, il y a une inscription qui nous dit clairement dessus que l'hôtel a été béni par un évêque de Narbonne, Rusticius, à telle année de son épiscopat. Et donc, comme on connaît ce personnage, on la date à 10 ans près. Et on est dans le milieu du 5e siècle, dans les années 450-460. Il y a une pierre équivalente et à Saint-Victor de Marseille pourrait dater, ça c'est les plus vieilles tables d'hôtel de Gaulle, hein, pourrait dater aussi de ces années-là, mais par contre la datation n'est pas assurée parce qu'il n'y a pas d'inscription dessus. Hein. Et donc sur celle-là, donc on est déjà dans un Moyen-Âge beaucoup plus avancé, on n'est plus dans les premiers temps chrétiens, on ne choisit plus de marbre, qui est toujours un matériau noble, hein, mais on utilise des matériaux locaux, hein, pour le faire. Donc c'est ça la distinction, voilà, ça va être l'objet de la conférence que je ferai tout à l'heure, d'essayer d'expliquer en quelques mots, hein, parce qu'il y a des thèses à faire sur ces ouvrages. Voilà, et ce qui est passionnant aujourd'hui, donc, c'est la discussion qu'il aurait pu y avoir avant qu'on ne réalise des fouilles, c'est de déterminer l'origine de ces pierres, de ces sculptures. Parce que des sculptures remployées dans nos villages, encore une fois, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, à Saint-Jean-de-Fosse, à Montpérou, à Anyan, à Saint-Guilhem, on a des pierres, des chapiteaux, des fragments de colonnes qui sont réemployés dans des constructions du 18e, 19e, 20e siècle. Hein, généralement, jusqu'à présent, on les associait systématiquement à Saint-Guilhem-le-Désert, parce que le cloître est conservé, et parce que surtout, on sait qu'il y a une collection de sculptures magnifiques qui sont aujourd'hui au musée des cloîtres à New York.
York. Donc on attribuait systématiquement toutes les pierres retrouvées à Saint-Guilhem. Or, depuis les fouilles qu'on a réalisées dans les années 2010, de 2010 à 2016, on a trouvé une section de la galerie du cloître d'Aniane dans la terre. Et là, avec d'autres fragments de sculpture, alors malheureusement très, très fragmentés parce qu'elles ont été détruites, mais on les a trouvées dans le sol. Et là, on a désormais la preuve scientifique, archéologique, que... En même temps qu'à Saint-Guilhem, des artisans, des sculpteurs ont également œuvré dans l'abbaye voisine d'Aniane, hein, et que donc les deux abbayes constituaient des grands foyers d'art, au même titre que ce qui est déjà bien identifié, hein, c'est pour se projeter. On est là dans les traditions des grandes sculptures rodaniennes, que ce soit Saint-Gilles-du-Gard, voilà, qui est une des plus belles façades du monde roman, ou ou Sainte-Trophine d'Arles. Hein. Donc là, bon, Saint-Guilhem était bien répertorié, mais là maintenant, dans ce grand foyer d'art roman méridional, on peut y associer de manière certaine Aniane. Et c'est presque un miracle, hein, parce que les collections d'Aniane, donc dispersées ou trouvées dans le sol, on va dire qu'ils sont relativement modestes par rapport à ce qu'on peut voir à Saint-Gilles-du-Gard ou ailleurs, hein, mais suffisantes pour penser que c'était un bâtiment d'une splendeur extraordinaire qui a existé, en fait, et également à la même époque autour d'Aniane. Hein, donc ça suffit. Je veux dire, on a la pointe de l'iceberg, hein, qui nous permet d'imaginer. Puis d'ailleurs, moi, je trouve qu'en archéologue, c'est très bien aussi de laisser rêver un petit peu. Hein, on a quelques éléments qui peuvent nous laisser vagabonder pour essayer d'imaginer ce que pouvait être cette abbaye. J'ajouterais aussi qu'une différence avec Saint-Guilhem, c'est que dans des fragments qu'on a trouvés, il y a du marbre aussi à Aniane. On a des fragments de linteaux ou d'arc qu'on a retrouvés, mais du marbre rouge, hein, qui vient sans doute de l'Hérault. Donc c'est la distinction peut-être d'Aniane, par les quelques pièces qu'on a pu trouver, c'était peut-être dans le choix des matériaux, on pourrait l'appeler presque un clin d'œil, l'abbaye rouge peut-être, hein, qui devait se distinguer par ce choix de matériaux de ce qui a pu exister à la même époque à Saint-Guilhem.
Est-ce qu'on pourrait avoir quelques mots aussi de vous en tant que donateur? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être présent là aujourd'hui?
Je suis très content d'avoir fait cette trouvaille et de l'avoir remise à la communauté d'Aniane. Hein. Simplement, comme d'autres pierres, elle aurait pu passer inaperçue et être rebâtie dans les constructions modernes. Donc celle-là, certainement, on y voyait des traces de chaux, elle a dû être réemployée déjà une première fois avant d'être abandonnée ensuite, quoi.
Et comment ça s'est passé justement, ce moment où vous êtes rendu compte et ce moment où vous vous êtes dit, tiens, allez, je vais en faire don aussi à la communauté de communes Vallée de l'Hérault?
Le don pour moi est évident. J'ai travaillé pendant plusieurs années sur deux sites en Ardèche, l'abbaye de Mazan, qui a été la première fondation cistercienne en Languedoc, et l'abbaye de Cruas, dont les moines venaient d'Aniane. Donc il y a un lien spirituel entre Aniane et Cruas où j'ai travaillé. Ensuite, je me suis installé à Aniane. J'ai cessé de faire l'archéologie. J'en ai fait d'une façon très intense à Cruas et à Mazan parce que j'avais une exploitation agricole à faire tourner. Donc, j'ai cessé. Mais j'ai toujours gardé l'œil attentif. Et quand j'ai vu cette pierre, évidemment, j'étais tout content.
Et vous aussi, vous êtes conscient aussi de la richesse de ce cloître d'Aniane, de cette abbaye, de son histoire?
Depuis que j'ai 7 ou 8 ans, lorsque je faisais visiter à la sortie des messes à des touristes anglais ou hollandais l'église de mon village, je disais toujours, ce sont des moines venus d'Aniane qui ont bâti cette... Voilà. Donc j'ai une vieille mémoire d'Aniane qui remonte, je vous dis, à l'âge de 7, 8, 10 ans. Voilà. Et donc, quand mon père m'a demandé ce que je voulais faire, il s'est trouvé que je suis allé voir un conseiller d'orientation. Et la conseillère d'orientation, elle a dit, il a un tempérament d'artiste. Alors mon père a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? J'ai gardé l'œil d'artiste, bon, je fais. Et je suis très heureux d'avoir trouvé. Voilà. Et il y a certainement d'autres trouvailles à faire, certainement.
Oui, donc vous aussi, vous êtes d'accord avec le fait que le patrimoine aussi, on a besoin aussi d'en connaître davantage sur notre patrimoine pour avancer dans l'avenir.
Mais ça fait partie de nos racines. On vient de quelque part et les anciens. Et il se trouvait aussi que j'avais dans ma famille, parce qu'on était dans un village où il y avait de grosses exploitations de pierres de taille et de sculptures, et il se trouvait que j'avais un arrière-grand-père dans la famille était tailleur de pierre et sculpteur. Donc on avait toujours l'œil exercé pour la belle ouvrage, quoi. Voilà.
Le contact qu'on a eu avec M. Pierre Payard s'est fait aussi par un professeur. Ça a été un des premiers étudiants de Robert Saint-Jean, qui était professeur d'histoire de l'art à Montpellier. Et moi, j'étais dans les dernières générations d'étudiants de ce même professeur. Donc immédiatement, le lien s'est fait. On parlait exactement la même langue et on partageait la même passion. Donc voilà, cette pierre, elle raconte une histoire, mais c'est aussi des vies d'hommes qui les ont conservées, des rencontres dont elle peut témoigner. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaye d'associer. Les journées archéologiques sont faites pour ça, européennes, d'associer des témoignages humains à du patrimoine, à des œuvres, et puis à la transmission de récits qui vont se poursuivre. Donc cette pierre, c'est une étape. Pour le moment, elle est rangée dans des casiers, mais elle est conservée dans un lieu sécurisé. Et puis demain, après-demain, ça sera un élément clé d'un musée ou du centre d'interprétation qui nécessairement devra exister au sein de l'abbaye d'Aniane.
Mais comme quoi, c'est fou, vos chemins étaient faits pour se rencontrer aussi.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Qui intéresse l'archéologie, les plus jeunes générations?
Alors, c'est des questions qu'on pose souvent parce que j'ai eu à faire des expositions dans mon village, devant des miens, et des collègues me disaient: mais Laurent, tes vieilles pierres, est-ce que ça va vraiment intéresser, et notamment les enfants, les petits? Et je dis, tu verras, on va essayer de faire l'exposition. Et en fait, les jeunes publics sur la préhistoire, ça fait rêver, ça transforme, ça intéresse tous les jeunes publics. Enfin, pas que les jeunes publics, c'est vraiment un moyen à Aniane. La CCVH a mis en place un service pédagogique avec des bacs pour faire des vraies fausses fouilles. On a reconstitué une abbaye miniature et les gamins, en fait, viennent ici, donc apprennent les gestes de l'archéologue, ont le sentiment de la découverte, de comprendre aussi des choses, de prendre, et ramènent leurs parents. Ce sont les enfants qui amènent après les parents dans l'abbaye pour faire les visites, parce que le succès de ces journées fait que les enfants tirent les parents pour les ramener vers le lieu. Et puis j'allais dire, l'archéologie, il ne faut pas la voir comme la grande archéologie égyptienne ou ailleurs, comme des déserts. L'archéologie, c'est une forme d'écologie du territoire aussi. L'archéologie, nous, il y a deux types d'archéologie. Il y a l'archéologie que font les chercheurs, comme on a fait à Aniane. Dire, on a une commande qui était de comprendre un monument. Mais il y a aussi une archéologie qui est l'archéologie quotidienne, c'est qu'aujourd'hui, quand on fait des routes, quand on fait des autoroutes, quand on fait des ronds-points, quand on bétonne, eh bien on détruit des traces. Et nous, les journées européennes de l'archéologie, c'est fait pour ça, c'est fait pour expliquer que si on ne fait pas d'observation, les destructions sont irrémédiables. Cette pierre-là d'autel, elle aurait pu rester dans une façade de maison, mais elle peut être broyée, elle peut être jetée, elle aurait pu être jetée comme des tas d'autres pierres. Donc les journées européennes de l'archéologie, c'est aussi ça, c'est un respect du territoire, des sols, au même titre, j'allais dire, que on est des espèces de jardiniers ou d'agriculteurs aussi. D'ailleurs, on communique beaucoup avec le monde. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire les nécessités de certains aménagements font qu'on a besoin de se déplacer, on a besoin de se loger, on a besoin de construire, mais on accompagne ça parce que ça serait, entre guillemets, criminel, de détruire des sols, des vestiges enfouis, conservés de manière irrémédiable. En tout cas, c'est une responsabilité gigantesque pour les années où ça s'est fait ou pour les aménageurs qui se comporteraient de telle manière. Donc l'archéologie, elle accompagne ça. Elle a un sens aussi à expliquer la diversité, les brassages, à expliquer la complexité des temps. Dire le sol, on est aujourd'hui les habitants natifs ou néo, comme on dit, nous sommes des passagers des autres de cette terre. D'autres étaient là avant nous, ce n'étaient pas les mêmes générations, et demain, ça sera encore autrement. Et c'est l'archéologie, c'est aussi ce discours-là, qui est un discours humaniste, qu'elle permet d'essayer d'expliquer avec des objets qui doivent être contextualisés. C'est pas que le beau, en fait. On ne cherche pas forcément le beau. C'est le sens. c'est le sens, c'est-à-dire la datation, la contextualisation, mais voilà, comprendre pourquoi tel village a été abandonné au Moyen-Âge et n'existe plus aujourd'hui, pourquoi tel autre est devenu une grande ville aujourd'hui, comprendre que Montpellier en 985 c'est moins d'une centaine d'habitants et qu'au XIIIe siècle c'est 40 ou 50 000, vous voyez, c'est déjà quelque chose de, voilà, à comprendre de cette croissance, comment elle s'est faite, comment elle s'est ordonnée. Et donc les archéologues, eh bien, c'est une course un peu contre la montre, c'est le pot de chagrin, hein, c'est le pot de chagrin. On parle voilà, d'artificialisation des sols régulièrement. L'artificialisation des sols, c'est aussi la destruction d'une mémoire, hein, qu'elle soit écologique, patrimoniale, archéologique. Donc ces journées, elles permettent d'expliquer notre travail. Et généralement, oui, elles ont reçoivent un bon contact auprès de tous les publics.
D'où l'engagement politique dont vous parliez tout à l'heure aussi, que l'archéologie, c'est aussi un engagement, quoi.
Oui, je crois, oui. L'archéologie, aujourd'hui, c'est devenu un vrai métier, mais comme le disait M. Payard tout à l'heure, voilà, moi aussi, quand j'ai dit à mes parents que je voulais être archéologue, j'aurais dit que si je voulais être musicien ou chanteur, ça, c'était un peu la même chose. Mais vous voyez, mais ça s'est professionnalisé. Et si ça s'est professionnalisé, c'est bien qu'il y avait une demande. Hein, qu'il y avait une demande qui s'est faite dans les années 70-80, quand on a commencé à faire des parkings souterrains, après-guerre en gros. Hein. Le début de l'archéologie médiévale en France, c'est les fouilles du château de Caen, hein, qui avait été bombardé. Et c'est les fouilles de ce château qui ont permis de structurer le premier laboratoire d'archéologie médiévale en France. Et voilà, et depuis, ça s'est développé dans toutes les universités quasiment. Donc l'INRAP aussi, hein, qui est le porteur en fait, de ces journées de l'archéologie, qui était d'ailleurs dans les mouvements, si vous avez suivi l'actualité hier, hein, les archéologues étaient en grève, il y avait un mouvement national, parce qu'il y a des menaces de, on va dire, de rognage sur les budgets, même sur d'amendements sur certaines lois, bon, qui font que, oui, effectivement, c'est immensément politique.
Il faut que les élus et les archéologues marchent de main dans la main, quoi.
Oui, ben c'est ce qu'on fait, là, l'exemple de ce qu'on a fait aujourd'hui, là, de ce qu'on fait sur ce territoire-là, oui, c'est du gagnant-gagnant, hein, c'est du gagnant-gagnant, c'est de, voilà, de l'aménagement, le respect du passé, et puis transmettre surtout, hein, voilà, encore une fois, on est de passage, hein.
Et vous travaillez ailleurs que dans l'Hérault,
Oui, j'ai eu travaillé ailleurs, voilà, jusqu'en Syrie, mais pour les raisons que vous comprenez, voilà, ça s'est arrêté un peu brutalement. Et comme je suis dans ma fin de carrière, on va dire, ou seconde partie de carrière, là, je me recentre plutôt sur le département de l'Hérault.
D'accord, donc on aura l'occasion de vous revoir et d'assister à d'autres de vos conférences.
Certainement.
Gallia Florenzini suffragia de possere tut serrua contensi dai gensi via Olympius rex Carolus Magnus accodentissimus et cyclocum devotius pro beati virtutibus terris datis fecundibus auxit honorem largius et praebuit tum vasculum quena dei magnificum. Terum fugatur sepius, infirmitas languentibus, et sanitas fidelibus, prestatur ex oprotibus. Post imperans Ludovicus, magni Caroli filius, ipsum locum benignius, colit piis ornatibus. Qui filis rebellibus, concussus altis fluctibus, et Franciam turbantibus, regnum reliquit mortus. Qua tuor mox partibus regnum sibi secantibus pro Francia iurgantibus bellum fuit horridius. Imperio sic turbido crescit malorum factio surgensque tum dissensio pernis et omnes iurgio.
vit hoc tempore nemen noius nomine au per prius progenie agrum colebat vomere sed reperit largissimum thesaurum terrae conditum quo plurimorum vivitum ium sit siris solatium. Tantis repulsus gladibus.
Confiditum Deus, preda sagittem melalus, istandore damnensibus, simulque lamentensibus.
Deinde picta vensium, transliger immanentium pagum petit medalgicum glomnan locum pulcherrimum
turmam vocat monachica multam quedat pecunia iubet suam nox statuam effigia risplendidam quam poderem pinaculo ad orientem patulo signum quam esset carolum se non timere dominum.
Peribus
precatur indulgens
provinciam redire posset patriam reversus ad Britanniam nimiam dat pecuniam.
Abbas erardito bonus regni Carolo proximus qui convocati fratribus regem petitu Antonius.
Exponit iras Britonum magnus celus crudelium, tum Rex dolens in pectore, quae ridvice mox reddere. Incandegavam protinus urbem peti tristissimus, dat abbaciam loculi Sancto Ioanni dediti.
Parum visum fuit, non sui alteram tardinit, sancti Gundulfi nomine quae partibus desplansile. Magnis datis